Il est 19h et vous avez bien raison d'écouter Campus. Tout de suite, c'est l'heure du sous-marin.
Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
C'est la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward.
Tout le monde est à son poste ?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à bord du sous-marin sur les ondes de Campus et nous sommes ensemble pendant une heure pour faire fonctionner nos sonars et nos méninges. Au programme de cette émission, nous allons vous diffuser une interview qu'on a eue par téléphone avec Vincent Serrano, qui est le chanteur des Hurlements de Léo. Et oui, le groupe originaire de la région sud-ouest avec l'accent de Bordeaux jouera à Cholet samedi. On voulait vous faire profiter de cette interview. Et nous allons également vous diffuser notre rencontre avec Barbara Rétoré et Julien Chapuis. Ce sont des biologistes, ou plutôt des éthologues, qui présentent leur exposition intitulée « Entre deux Amériques ». Ça se passe du côté de la BU de sciences à l'Alcato. Et puis, nous allons aussi vous faire profiter de la vigie, la chronique politique d'Octave. Mais vous en avez l'habitude, maintenant, on commence par un reportage.
9h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Frère Toc, c'est l'histoire de trois amis. Des potes qui se connaissent depuis leur enfance, passés à Cantenay-Épinard. Après avoir pris chacun des voies différentes qui les éparpilleront en France avec Marseille, Paris et Angers au tableau de chasse, Louis, Édouard et Max se sont rassemblés autour d'un projet à Angers, créer leur propre SARL. L'idée, livrer à domicile des plats de restaurant, le tout à vélo.
En fait, on est parti du principe qu'il n'y avait que des pizzas ou sushis qui se faisaient livrer et que les restos qui faisaient de la bonne cuisine, etc., n'avaient pas le temps et les moyens en fait, de faire un service de livraison.
Édouard Gonnet, cofondateur des Frères Toc.
Donc en gros, nous, on allait les voir et on leur propose de livrer les plats de leur resto à vélo aux Angevins. Voilà. On va dire le premier truc, c'est d'avoir des bons restos qui changent. Effectivement, la deuxième promesse, c'est de livrer rapidement. Et pourquoi on peut livrer rapidement? Alors, c'est pas forcément grâce au vélo, parce qu'on va dire un scooter va aller au moins aussi vite ou parfois un petit peu plus vite sur les plus longues distances. Mais c'est, on va dire, l'outil technologique qui permet en fait d'optimiser le processus de commande. En fait, on a un central voilà, où on dispatche les commandes aux livreurs. Les livreurs ont une application. Les restaurants aussi reçoivent la commande en même temps. Donc c'est vraiment l'histoire de synchroniser le tout le plus rapidement possible.
Via la centrale de dispatch des livreurs et de réception des livraisons. En fait, chaque livreur a une application où il est géolocalisé, du coup, où il a, lui, son itinéraire de livraison.
Louis Préselin, cofondateur des Frères Toc.
Et après, avec ça, nous, en tant que dispatcher, on peut le suivre, savoir où est-ce qu'il est et du coup savoir sur quelle livraison on peut l'envoyer. Et en même temps, le client, du coup, a cette possibilité-là entre le restaurant et chez lui. Il peut suivre son livreur arrivé, son plat arrivé. Donc ça fluidifie aussi le processus de livraison, car le client attend son plat, il sait que dans 2 minutes son livreur est chez lui et vu que la commande est déjà payée sur notre site internet avant, c'est beaucoup plus rapide et ça nous permet de gagner du temps là-dessus aussi.
L'idée au départ, c'était en octobre 2014 si je me souviens bien, on n'a rien inventé, hein, ça existait dans certaines villes françaises, mais moi c'est un exemple aux États-Unis qui m'avait marqué effectivement, où ils faisaient ça effectivement avec la technologie, ce qui n'existait pas forcément en France. Et donc on a commencé à réfléchir en janvier 2015. Ouais. Et entre temps, en fait, il y a un acteur belge qui est venu en France, et un acteur anglais aussi qui est venu en France à Paris. Et maintenant, ils commencent à aller dans les villes de province comme Nantes. Donc voilà, donc nous on est quand même beaucoup plus petits qu'eux, donc nous notre intérêt voilà, c'est de se développer déjà à Angers et puis après voir d'autres villes dans le futur.
On était lancé avant Nantes, on était lancé avant le concept de Nantes en tout cas. Eux ils se sont lancés avant nous, le gros groupe, mais ils sont arrivés à Nantes il y a 2 mois à peu près, un peu moins de 2 mois. Et nous ça fait 8 mois qu'on existe à Angers, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus gros que nous, du coup plus de pouvoir de communication et ils se font connaître plus rapidement que nous. Mais c'est bien, ça fait parler aussi de l'idée et du concept à la télé. Il y a beaucoup de gens qui ont commandé même des coursiers qui nous ont rejoints, qui ont vu le concept à la télé, ils se sont dit on a recherché s'il n'y avait pas ça à Angers, ils nous ont trouvé tout de suite, donc tant mieux, c'est bien, ça fait parler de nous aussi. Tant qu'ils viennent pas à Angers, il n'y a pas de problème.
Vous arrivez à en vivre aujourd'hui, ça marche bien?
Alors aujourd'hui, on en vit pas encore. Tout l'argent qu'on gagne, en fait, on le réinvestit. On a l'avantage, c'est que en ayant quitté notre travail, on avait un peu, vu qu'on avait une première expérience professionnelle, on avait un peu d'argent de côté. On peut aussi bénéficier de Pôle emploi, donc c'est le gros avantage pendant un an. Donc là, ça arrive à sa fin. Donc l'idée, c'est de commencer à réfléchir comment structurer la chose pour se payer. On commence à embaucher des livreurs, donc des livreurs indépendants, des coursiers, des étudiants principalement pour les week-ends. Donc pour venir nous aider un peu pour qu'on puisse plus développer la journée, vu qu'aujourd'hui on développe un peu l'entreprise, on va démarcher des nouveaux restaurants et puis en plus on livre le soir. C'est vrai que de concentrer l'énergie sur les différents points, c'est difficile, ça se répartit un peu à chaque fois. Donc d'être aidé sur tous les week-ends, c'est les périodes de pic. Donc non, l'idée c'était de se payer, c'était de voir pendant un an comme ça, essayer de se débrouiller tout seul. Et donc là on est encore, on est arrivé aux deux tiers, donc il reste trois mois pour réfléchir à comment structurer la chose, mais c'est plutôt en bonne voie actuellement là.
À vélo, c'est pas trop galère justement quand il pleut, quand il neige, comme en début de cette semaine, ça se passe comment? Il n'y a pas trop de chutes?
Non, une chute seulement je crois là, depuis 8 mois sous la pluie, contre une Twingo. Mais non, ça va. Alors après, on était plus ou moins sportifs. Moi, j'étais peut-être le moins sportif des trois. Bon, au bout d'un mois, ça va, on s'y fait. Hein. C'est pas non plus des grosses distances. Donc non, c'est bien. Et puis ça maintient en forme.
Avec une seule chute de vélo au compteur, le bilan est plutôt bon. Il en va de même question partenariat, puisque 13 restaurants sont pour l'instant sur la liste et il devrait y en avoir 20 d'ici un an. We'll be right back. Vous êtes toujours dans le sous-marin sur campus. À l'instant, vous venez d'entendre le titre Don't Know Words, un titre signé Howie Lee. Et tout de suite, nous allons vous diffuser une interview de Barbara Rétoré et de Julien Chapuis. Ces biologistes présentent leur exposition intitulée « Entre deux Amériques ». Ça se passe à la BU des sciences de l'Université catholique, une expo qui sera visible jusqu'au 30 janvier. Ils n'ont pas seulement fait une expo, vous allez l'entendre au cours de cette rencontre. Il y a aussi un film documentaire sur lequel ils ont un tout petit peu galéré. Bonjour Barbara Rétoré, bonjour Julien Chapuis.
Bonjour. Bonjour.
Vous présentez l'exposition « Entre deux Amériques ». Ça se passe à la BU des sciences de l'Université catholique. Vous êtes biologiste, plus précisément éthologue. La différence entre les deux, on a cherché un peu sur Wikipédia, c'était un peu compliqué pour nos auditeurs. C'est quoi alors la différence?
Oui, alors en fait l'éthologie c'est une branche de la biologie, il y en a différentes des branches. Et l'éthologie en l'occurrence c'est l'étude du comportement animal et humain par extension. C'est aussi simple que ça, on étudie le comportement du modèle animal sur différentes thématiques, le comportement maternel, le comportement reproducteur, la communication, plein de choses comme ça. Voilà, c'est à ça que l'on s'intéresse.
Pour la préparation de l'expédition, vous nous parlez d'une coproduction de Nat Explorer et Conservation, donc une entreprise et une association dont vous êtes à l'origine. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, comment vous avez réussi à pouvoir financer le voyage?
Alors, Conservation, c'est une association, en effet, environnementale, qui a pour but d'agir pour la protection de la biodiversité. Cette association, on l'a fondée tous les deux avec Julien il y a maintenant 3-4 ans, c'était en 2012. Et cette association, on l'a fondée pour mener cette première mission de terrain en Amérique centrale en 2013. Pour la récolte de fonds, pour répondre à cette partie-là de la question, on a sollicité un petit peu tout le monde, du mécénat d'entreprise jusqu'à une plateforme de dons participatifs sur Internet pour des dons privés, du sponsoring, d'équipement. Enfin voilà, on a un peu frappé à toutes les portes et puis on a réussi tant bien que mal à financer cette expédition sous le chapeau en fait de cette association qu'on a créée. Le but c'était de déclencher des partenariats avec des projets sur place en Amérique centrale qui œuvrent pour la protection de la nature. Donc en fait, on a établi des partenariats aujourd'hui. On a visité 20 projets différents en Amérique centrale. Il y en a 10 aujourd'hui qui sont partenaires de l'association. Et puis pour notre entité professionnelle, donc comme le disait Julien, on est tous les deux éthologues, biologistes de formation. Et aujourd'hui, notre travail, il se résume à créer des supports pédagogiques suite à des missions de terrain vers le grand public et le public scolaire. Des expos, des films, des conférences, des animations scolaires, des cours à l'université par exemple.
Quel a été le déclic qui vous a poussé à mettre en place ce projet?
C'est une bonne question. Je ne sais pas trop s'il y a un déclic. J'ai plus l'impression, après je vais parler pour moi, que ça a été un processus progressif. On avait une envie de départ avec Barbara qui était d'utiliser les sciences du comportement, donc l'éthologie, au service de la protection des espèces animales menacées. Donc ça a peut-être été ça, le déclencheur. Et à partir de là, on a commencé à réfléchir sur ce que l'on pouvait faire concrètement, nous, à notre niveau, où est-ce qu'on pouvait se rendre, où est-ce qu'on pouvait avoir l'impact le plus important possible. Et donc, on a décidé de se rendre en Amérique centrale, qui est un point chaud de biodiversité. Donc, l'une des zones sur Terre où la biodiversité est la plus importante, mais aussi la plus menacée. Et à partir de là, on s'est dit qu'on pouvait aller à la rencontre des gens qui agissent déjà concrètement sur le terrain et essayer de leur apporter notre aide et notre expertise. Et ça a été ça, le point de départ.
Alors justement, comment s'est passé le contact avec les gens qui agissent sur le terrain là-bas? Il y a des associations locales, mais on a vu aussi qu'il y avait des associations américaines qui étaient là-bas. Comment ça s'organise et comment ça s'est passé pour vous là-bas?
Sur ces zones-là, sur ces points chauds de biodiversité, c'est vrai que se retrouvent beaucoup d'acteurs dans le milieu de la protection de la nature. Il y a en effet des institutions, des organisations non gouvernementales, par exemple, qui se trouvent avec des antennes sur ces sites-là et qui ont, on va dire, un pôle américain notamment, parce que c'est vrai qu'on est très proche des États-Unis. Par ailleurs, nous, on a décidé, et c'était à l'image des couleurs de l'association qu'on portait à ce moment-là, de rendre visite à des structures structures de petite taille, à taille humaine, tout simplement. Donc souvent, c'est quelques personnes, voire une communauté, un village qui s'investit sur des projets. Ça avait un vrai sens pour nous, c'était de soutenir des initiatives locales, gérées particulièrement par les locaux, et avec une envie d'agir sur le long terme aussi.
Et donc on se demandait aussi quelles étaient les interventions concrètes que vous faisiez sur le terrain. Est-ce que c'était plus axé dans la constatation des faits ou plus dans l'action, vraiment ?
Ça dépendait réellement des acteurs que l'on rencontrait. Parfois, c'était très immersif, très interactif. Donc, on agissait concrètement sur le terrain. Sur une des missions, par exemple, on a mis la main à la pâte dans un inventaire des serpents, des reptiles, des amphibiens. Donc là, il s'agissait vraiment d'aider les scientifiques qui étaient sur place à récolter les animaux sur le terrain et ensuite à les mesurer, à faire des pesées, bref, à en savoir plus sur ces espèces-là, sur ces individus. Et à d'autres moments, notre travail, c'était plus réaliser un état des lieux et documenter surtout ce qui se faisait, que ce soit par le biais de la photo, de la vidéo, de récits d'expédition ou alors encore d'interviews des scientifiques. Donc ça dépendait vraiment des cas de figure. On a alterné entre les deux et parfois, il fallait jongler entre les deux, ce qui n'était pas toujours évident.
Sur les bas de vos panneaux, on voit beaucoup de noms d'associations, de l'incitation à s'engager. Vous êtes partenaire maintenant avec ces assos. Comment ça se passe et est-ce que vous avez un contact fréquent avec elles ?
Oui, on a un contact fréquent avec nos partenaires aujourd'hui, dans le sens où on est parti du constat, Julien et moi, que peut-être beaucoup de personnes ont envie de s'investir dans la protection de la nature, mais ne savent pas toujours par quel chemin emprunter, en tout cas. Donc notre constat, il a été là, c'était d'offrir un mini catalogue de projets avec un regard réel et intime, finalement, de ces projets. Nous, on s'est rendus sur place, on connaît les personnes aujourd'hui, on a partagé non seulement du travail avec ces personnes-là, mais aussi des moments de vie. On a vécu avec ces gens-là pendant parfois plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc on peut dire aujourd'hui que ces 10 structures sur les 20 qu'on a visitées, ce sont des structures qu'on aime à rendre visibles et à soutenir. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place dans cette exposition notamment vraiment la part belle à comment soutenir ce genre de projet. Donc si des personnes sont plus intéressées pour je ne sais quelle raison par les perroquets ou alors par les singes ou les tortues marines, que sais-je, ben finalement on pourrait les orienter un peu finalement vers des programmes suivant leurs affinités.
Vous nous parlez d'une grande expérience auprès des locaux. Donc d'après cette expérience avec la population locale, est-ce que vous constatez qu'elle est plus sensible peut-être à la préservation des écosystèmes qu'on peut l'être en Occident ?
C'est très dépendant, encore une fois, des cas de figure, en fonction des acteurs, en fonction du territoire dans lequel on se trouve. Le rapport des communautés locales va être différent et ça va aussi dépendre de l'interaction que vont avoir ces communautés locales avec les acteurs de terrain, qu'ils soient scientifiques, bénévoles, qu'ils soient membres d'organisations non gouvernementales. Mais par contre, ça nous a démontré une chose, cette expédition, c'est l'importance de l'éducation auprès de ces communautés, pas uniquement vers les enfants, mais aussi vers les parents, les grands-parents, et montrer en quoi leur vie, elle est profondément liée à la nature environnante. Ces personnes-là, au contraire de nous, occidentaux, qui poussons notre caddie et allons chercher ce dont on a besoin pour vivre dans des supermarchés, eux, ils dépendent directement des ressources naturelles qui sont autour d'eux, sauf qu'ils n'en ont pas forcément conscience ou la connaissance. Et donc, ça fait partie du travail des personnes que l'on a rencontrées de réaliser ces actions d'éducation, de sensibilisation. Et ces initiatives-là, c'est peut-être les choses les plus importantes.
Vous avez dépassé un peu votre cadre de travail classique pour arriver à présenter une exposition, un film dont on parlera un tout petit peu plus tard. Comment ça s'est passé? Comment vous avez imaginé l'exposition, organisé, etc. C'était une partie compliquée pour vous?
C'était sûrement en partie compliqué parce qu'on était complètement à ce moment-là novice en la matière, en création de support comme ça. On donne des cours en effet en université, donc on a le souci de l'éducation à l'environnement, etc. Mais après, encore faut-il pouvoir le mettre en forme sous forme d'exposition ou encore de film. Donc c'est vrai qu'on a récolté énormément d'images déjà sur place, de la photo et puis aussi de la vidéo dont on ne savait pas trop ce qu'on allait faire encore à ce moment-là. Et puis on a réussi finalement, après un an et demi acharné, arrive à faire un 52 minutes, un format 52 minutes documentaire. Donc c'est ce qu'on présente ce soir notamment. Et l'idée, c'était vraiment d'essayer de montrer, de témoigner de ce que nous, on avait pu vivre, et surtout de témoigner, comme on disait, à la place de ces personnes qui n'ont pas les ressources suffisantes ou les connaissances même parfois, de témoigner elles-mêmes du travail qu'ils font sur le terrain. Donc nous, on est simplement une passerelle et un relais. Donc on a créé cette exposition, comme vous l'avez sans doute vu, avec du matériel recyclé, on a mis la main à la pâte, on s'est entouré de personnes très sachantes aussi en construction et puis en graphisme, etc. Donc c'est un peu comme ça que le projet est né. Et en fait, finalement, on a tellement pris goût à ça qu'aujourd'hui, c'est devenu le cœur de notre travail. Donc voilà.
Pour ce qui est du tournage du film, forcément, vous étiez novice. Comment on s'y prend? On commence à filmer des plans, entre guillemets, un peu à l'arrache au début. On ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Et après, on mixe tout. Ou vous aviez quand même une idée globale de ce que vous vouliez comme rendu sans savoir comment trop s'y prendre?
On a beaucoup tâtonné. Nous, on n'est pas du tout cinéaste ou vidéaste de formation. On a appris sur le tas. Et le tas, en l'occurrence, ça a été notre expérience en expédition. On est arrivé premier jour d'expédition. L'expédition a duré pendant 200 jours. Et voilà, on a commencé petit à petit à se familiariser avec l'outil vidéo. Et nos images, au début, étaient vraiment, vraiment minables. Et donc, voilà, on a appris de nos erreurs. Et puis, petit à petit, on a réussi à comprendre certains aspects de ce travail-là, qui est un travail à part entière. Et on a réussi à se forger une certaine expérience avec les moyens du bord. Ça a été un tournage avec les moyens du bord, en étant en sac à dos pendant 6 mois et demi. Donc, forcément, on n'avait pas non plus beaucoup de matériel avec nous. Et on a fait ce que l'on pouvait avec l'idée que l'on avait en tête de ce qu'on pouvait faire de ces vidéos-là. Et c'est vrai que pendant tout le tournage de l'expédition, on ne savait pas du tout à quoi pourrait ressembler le film. Et c'est qu'à partir du moment où on a enclenché la phase d'écriture du scénario et le montage du film, que là, on a commencé à voir à quoi allait ressembler ce film. Donc on a fait le processus à l'envers. On a fait les images avant d'écrire le scénario. Et ça nous a appris qu'on ne refera plus jamais ça.
Avant de vous laisser présenter le vernissage, une dernière question. Le moment qui vous a le plus marqué ou qui vous a marqué à vie pendant cette exposition, c'est dur d'en retirer qu'un, mais si on devait en retirer qu'un, ce serait quoi?
C'est tellement difficile comme question. Je vais parler de moi, en tout cas, ce qui m'a marqué. On s'est retrouvé en pleine forêt au sud du Nicaragua, donc à la frontière avec le pays voisin qui est le Costa Rica, donc des pays qu'on pense assez bien préservés aujourd'hui. Et la mauvaise surprise qu'on a eue dans une zone très reculée comme ça, c'est de se retrouver à récupérer un tout petit singe qui devait avoir quelques semaines. Un singe araignée de cette région-là, un bébé qui finalement, on a appris plus tard par les paysans là-bas, que sa maman avait été tuée en traversant une parcelle agricole au sol, tuée par un chien, le chien de la famille en l'occurrence. Ça c'est juste, et ça a été un moment difficile parce que nous on s'est retrouvés démunis, donc on est partis là-bas avec plein de belles idées en disant qu'on allait aider et en pensant qu'on pouvait aider, et puis on s'est retrouvés aussi dans des situations comme celle-ci où là on est impuissant parce qu'on n'avait aucun moyen de contacter des organisations locales, il n'y en avait tout simplement pas. On a contacté par contre les municipalités, le gouvernement, etc. Par contre, ça n'intéresse personne de venir récupérer un petit singe pour essayer de le sauver. Donc on sait que ce singe est probablement mort aujourd'hui, mais voilà, finalement, il y a des expéditions comme ça, il y a aussi des moments un petit peu plus difficiles, et ça, c'est un moment qui m'a beaucoup marqué. Donc pas forcément dans le bon sens, par contre, ça m'a donné encore plus d'élan, ça m'a fait rebondir et ça m'a donné envie d'encore plus agir, et plutôt que de m'asseoir sur ma chaise, ça m'a fait l'effet inverse.
Merci beaucoup.
De rien.
Merci à vous.
Mary Mundy dans le sous-marin sur campus. Le titre, bah, vous l'avez entendu pendant tout le refrain, Love is Gone. C'est une réédition signée Al Kent. Tout de suite, on va continuer dans la musique puisqu'on vous diffuse une interview de Vincent Serrano. Vincent Serrano, c'est le chanteur, violoniste, saxophoniste ténor des Hurlements de Léo. Voilà, ça va vous faire voyager, l'accent va vous rappeler le chant des cigales.
Vincent Serrano, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes chanteur, violoniste et sax ténor au sein des Hurlements de Léo.
Ouais, voilà, on va commencer. Sax, violon et chanteur à la fin.
Vous avez enregistré un album de reprise de Mano Solo que vous défendez actuellement en tournée. On va y revenir. La première question qu'on se pose, vous avez rejoint le groupe en 2009 en même temps que d'autres membres.
Ouais, voilà.
Pourquoi est-ce qu'il y a eu une rotation cette année-là? Il y a eu un besoin de renouvellement au sein du groupe?
En 2008, quand ils ont le groupe avait besoin de s'arrêter, en fait. Il y en a quatre des anciens musiciens qui voulaient faire autre chose. Et donc, les quatre anciens ont décidé de reprendre l'aventure et de recruter des copains qui tournaient autour du groupe déjà depuis quelques années.
Et alors, vous, avant d'arriver dans le groupe, ça a représenté quoi pour vous, l'Hurlement de Léo?
Oh, ben moi, c'était le groupe bordelais... De ma jeunesse, j'avais fait plein de concerts, j'ai été toujours connu, donc, et ça m'a fait vraiment plaisir de jouer avec eux.
Donc votre nouvel album que vous défendez en tournée est un hommage à Mano Solo. Pourquoi avoir choisi cet artiste spécifiquement?
Oh, on a c'est, en fait, à la base, c'est une idée de Laurent, un des chanteurs du groupe, qui un jour dans le camion s'est dit moi, j'aimerais bien refaire un hommage à Mano Solo. Et en fait, c'est un artiste aussi qui a compté beaucoup au début, au début de la formation du groupe, qui a toujours inspiré le groupe. Et dès qu'on faisait des reprises ou comme ça pour s'amuser. Un peu partout, mais il y a toujours des reprises de Mano Solo qui étaient là-dedans. Et c'est un artiste qui nous a tourné autour depuis toujours, donc ça s'est fait plus ou moins naturellement.
Vous le connaissiez personnellement? Ça faisait partie des personnes que vous côtoyez, non?
Eh bien non, pas du tout. Pas du tout. Et pour cet hommage, il a fallu contacter les ayants droit, donc Fatia qui était son ancienne manageuse et qui était à fond dans le projet et qui nous a fait rencontrer plein de gens qui étaient dans la manosphère entre guillemets.
C'était important pour vous d'avoir justement le soutien de ces personnes-là qui cautionnent un peu votre projet?
Ah ben c'est quand même assez important d'avoir une certaine reconnaissance des proches de Mano Solo. Comme quoi, ça nous conforte dans l'idée qu'on est resté à peu près intègre par rapport à lui. Et oui, ça donne une certaine légitimité.
On se demandait aussi comment vous avez sélectionné les titres, comment ça s'était passé, pourquoi tel titre plutôt qu'un autre?
Ben, en fait, on s'était donné une petite mission. On amène tout le monde écoute tous les albums et amène cinq chansons qui lui plaisent pour faire cet hommage. Donc on est arrivé et en fait le choix s'est porté au final surtout sur les deux premiers albums. Et du coup on a travaillé et on en a fait un maximum qu'on pouvait, en fait on est arrivé presque à 30 morceaux et bon, à un moment il a fallu qu'on s'arrête parce que après sur scène ça devient trop long et à rentrer sur un CD c'est plus possible, c'est même qu'il a fallu faire un double CD pour rentrer tout ça.
Ce que je trouve intéressant dans le choix des morceaux, c'est qu'il y en a pas mal qui viennent de l'album des Frères Misère, qui est voilà, un des aspects peut-être moins connus de la carrière de Mano Solo, qui est l'album peut-être qui reste un peu le plus punk aussi. Il y avait des affinités particulières avec cet aspect-là de Mano Solo.
Ah ben déjà, moi, en fait, par exemple, personnellement, moi, ce que je connaissais le plus de Mano Solo, c'était les Frères Misère. Mais en fait, quand Fatia, que je vous ai pas, son ancienne manager, nous a fait contacter Napo Romero, en fait, c'était l'ancien guitariste de Mano Solo sur les deux premiers albums. Et il s'est avéré que lui, il était chaud pour venir faire du son avec nous. Donc, il a intégré le groupe avec nous depuis le début de la tournée, depuis le début du projet. Et maintenant, il fait partie à part entière des Hurlements. Et il s'avère que c'était le guitariste des Frères Misère aussi, des Chihuahuas. Donc, il y a eu encore plus de légitimité et ça nous a... Lui, il était à fond pour faire ça, pour reprendre du Frères Misère, et nous, à fond aussi. Donc voilà, ça s'est fait naturellement aussi avec lui.
On peut voir aussi dans votre album qu'il y a beaucoup de featuring. Comment vous y êtes pris un peu pour choisir les artistes avec qui collaborer et comment s'est passée la collaboration avec eux ?
Eh bien, premièrement, on a contacté nos copains déjà qui étaient sensibles à cet auteur, donc comme les Babylon Circus ou Gabji ou Pierrot de la Ruda Felska. Et quelques artistes qu'on savait, qu'on croisait des fois sur la route et qu'on savait toucher par cet auteur. Et comme Zebda ou Nilda Fernandez, qu'on ne connaissait pas trop. Pareil pour Arnaud des Salles Majestés, il s'avère que c'était une super rencontre. Donc, nous, on était en studio pendant 15 jours à Rochefort et on leur a proposé, on leur a ouvert notre set. On a fait, voilà, on a ça. Qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce qui vous fait? Et si vous êtes chaud, ben, on vous paye le voyage pour venir à Rochefort et enregistrer ça avec nous en studio. Et puis la plupart ont joué le jeu, ça s'est super bien passé. Et voilà.
Au niveau des publics, quand vous tournez avec ce répertoire de reprises, on retrouve votre public habituel, vous attirez un nouveau public aussi, l'ambiance est différente ou pas forcément ?
Ah oui, c'est vraiment différent. On récupère beaucoup le public de Mano Solo, comme vous pouvez vous en douter. Donc, ils sont souvent curieux de savoir ce que ça donne. On a aussi notre public, plus des gens qui découvrent aussi. Il y a vraiment de tout, ça va de tous les âges. On peut faire des salles, en plus on joue dans des salles assises ou dans des salles de concert rock. On a ouvert le spectacle un peu à tout public.
Est-ce que voilà. Le public change en fonction des régions, des villes aussi, ou ça c'est quelque chose que vous avez un peu de mal à voir?
Ça reste assez homogène quand même. Il y a certains endroits où on sait que ça va être un petit peu plus punk ou un petit peu plus crust ou je sais pas. en connaissant l'ambiance du bar ou de la salle, des endroits qui se prêtent plus au rock, mais autrement, non, ça reste assez homogène dans la représentation du public.
Vous aviez commencé ce projet fin 2014. Début 2015, ouais. On a assisté aux attentats contre Charlie Hebdo. Au-delà de la volonté d'associer l'hommage à Mano Solo à son père Cabu, on a vu beaucoup, nous, sur les articles de presse liés au projet, qu'ils axaient tous, en fait, sur un espèce d'hommage à Charlie, alors que c'était pas l'intention de base.
Ah ben, oui, on avait commencé le projet un petit peu avant que tout ça se passe. Et oui, ben, c'est, bien sûr, c'est une solution de facilité. Le raccourci, il est vite fait, quoi. Alors, sur des petits... quand on nous interview, on remet les choses en place, mais c'est vrai que non, il n'y avait aucune... Il n'y avait pas de... C'était pas destiné au début à un hommage à Charlie, ni à Cabu. Du coup, tout ce message des frères Misère et de Mano Solo aussi prend une autre dimension, je trouve. Mais oui, les amalgames ont été faits au début, c'est sûr.
Justement, ça pas vous énerve, mais ça vous saoule un peu cette espèce de récupération, en tout cas d'amalgame, comme vous le dites, de mix de
ça
tout.
Ça a été assez... C'est un peu compréhensible en même temps, mais ça a été assez léger. Enfin, ça nous, on ne nous parle pas tout le temps de ça, en fait. Donc ça reste assez correct, on va dire.
Donc les hurlements de Léo ont 20 ans cette année. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait le tour de la question ou vous voulez vous renouveler après, par la suite, changer de style peut-être?
Nous, ce qu'on aime, c'est faire la musique. Et... Donc le tour de la question, je pense qu'on l'aura jamais fait parce qu'il y a tellement à faire. Et tellement, on a tellement de sensibilités différentes dans le groupe qu'on a tellement de travail à faire en commun que le seul truc qui peut nous arrêter, c'est vraiment la mort des intermittents, autrement. Tant que ce système existe et que nous, on a encore la volonté de faire de la route, de faire du camion et d'envoyer sur des concerts, on sera toujours là.
Justement, vous, ça fait 7 ans déjà que vous tournez avec l'Hurlement de Léo. Vous étiez sûrement dans ce milieu-là avant aussi.
Ouais.
Quelles évolutions vous ressentez de manière générale dans le monde de la culture? Ça se précarise de plus en plus
Ah oui, ça devient de plus en plus... C'est de la grosse consommation d'artistes. Quoi. C'est de plus en plus de gros festivals qui prennent tous les budgets, parce que les gros artistes prennent tous les budgets. Et ensuite, il reste des miettes pour tout ce qui est culture au quotidien dans les régions et tout ça. Donc ouais, ça devient de plus en plus compliqué, c'est sûr.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire bouger les lignes, justement, par rapport à ça?
Qu'est-ce qu'il faudrait faire?
On sait qu'il y a beaucoup de boulot, mais une piste, au moins, aidez-nous.
Mais en même temps, ça va bien, tout va de pair avec le mode de fonctionnement de la société qui va de plus en plus dans le libéralisme à outrance. On enrichit notre vie tant qu'on a engrangé le plus de sous sur son compte en banque. Tant que je pense qu'on résumera notre vie à combien on peut gagner dans une vie, ouais, là, ça sera un peu compliqué, je pense. Donc, on pense qu'à soi et à son petit confort. Et même si c'est facile, c'est sûr, c'est facile de dire ça à mon niveau, mais je sais pas. Moi, je suis pas dans les hautes sphères pour proposer les trucs, mais c'est pas mon boulot, mais moi, je demande qu'à suivre. les gens qui ont des nouvelles idées pour faire évoluer cette société.
Peut-être pour finir, Mano Solo, c'était quand même un artiste assez unique en son genre. Est-ce qu'il y a des gens dans la scène française aujourd'hui chez lesquels vous retrouvez un peu ce qu'on pouvait trouver chez Mano Solo?
Certains artistes pas trop connus, comme Gabji. J'aime bien quelques gens du hip-hop, là, comme... que je rapproche un peu à Mano Solo, parce que on a la Kenny Arcana, la petite Marseillaise, ou le Demi Portion aussi, qui restent intègres, quoi. C'est des gens intègres qui restent droit dans leurs bottes. Les Ogres de Barbac, bien sûr. Moi, même si c'est moins engagé, eux, dans leur façon de faire, sont vraiment super engagés, de toute façon. Donc voilà, à peu près.
Merci beaucoup, Vincent Serrano, d'avoir répondu à nos questions.
Eh bien, avec plaisir, c'était un grand honneur.
I'm
êtes toujours dans le sous-marin sur les ondes de campus. Vous venez d'écouter Beatmark avec le titre Never Ending Fun. Et Octave est entré dans le studio. Bonsoir Octave.
Bonsoir Pierre-Louis.
Alors, cette interview de Vincent Serrano, ça t'a rappelé le sud, toi qui as passé un peu de temps à Toulouse ?
Ah, j'ai pas passé qu'un peu de temps à Toulouse, je viens de Toulouse, j'ai presque versé une larme, c'était les copains, c'était les cigales, c'était les quais de la Dorade avec les punks à chiens qui se boivent des bières jusqu'à 3h du matin, c'était magnifique.
Ah, ça fait rêver. Allez, parlons un peu politique.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Octave, tu es un homme de challenge, un homme de défi. Je sais que tu aimes les choses risquées. Là, tu voulais te faire l'avocat du diable.
Exactement. Mes chers auditeurs, mes chères auditrices, c'est avec une douleur profonde que je m'adresse à vous aujourd'hui. Nous avions cru que Charlie Hebdo, tel un phénix enroué, allait renaître de ses cendres et irradier de sa lumière crasse, valienne notre beau pays et sa magnifique liberté d'expression hollandienne. Il aura fallu d'un an pour se rendre compte que l'oiseau portait une croix gammée à l'aile. Le dessinateur Rhys a osé la semaine dernière s'attaquer au petit Aylan, enfant réfugié parti chanter sous l'océan a cappella avec la petite sirène. Le traître écrit, je cite, « Que serait devenu le petit Aylan s'il avait grandi ? Tripoteur de fesses en Allemagne, bien sûr ! Oh, c'est d'un mauvais goût, bête et méchant et irresponsable ! Les parents du gamin pleurent et regrettent presque de l'avoir jeté à l'eau pour lâcher du lest. » La reine de Jordanie s'offusque et daigne répondre par le dessin qu'Aylan aurait pu devenir un médecin, un enseignant ou un père de famille affectueux dès sa sortie des camps de réfugiés et après une désintox. Ils doivent être contents, Jordanie, d'avoir une représentante avec un tel sens du devoir. Non, clairement, Français, il y a un an, tu as mal choisi ton camp. Toi qui t'es battu depuis ton canapé pour la liberté d'expression, qui a envoyé des enfants de 8 ans au poste pour le refus de la minute de silence, toi qui as même acheté un t-shirt « Je suis Charlie », tu as gagné le droit d'être dégoûté. Une telle offense au politiquement correct est inacceptable. C'est scandaleux de la part d'un journal où ont siégé les plus grands. Le professeur Choron, ancien para d'Indochine, Charlie Schlingo, alcoolique, héroïnomane, violent contenu, et Wolinski qui représentait dans sa grande époque 50% des bénéfices de la prostitution parisienne à lui tout seul. Quelle honte que de s'en prendre au plus grand totalitarisme démocratique d'une façon civile. Pardon ? Enfin, le politiquement correct, c'est un totalitarisme. Totalitarisme non violent, certes, mais totalitarisme quand même. Ah mais si, je vous dis ! Oh ! Bon, messieurs les jurés, avant de crier à l'assassin, étudions le dossier. Le politiquement correct, apparu dans les années 80 aux États-Unis, désigne, principalement pour le dénoncer, une attitude véhiculée par les politiques et les médias qui consiste à adoucir excessivement ou changer des formulations qui pourraient heurter un public catégoriel, en particulier en matière d'ethnie, de culture, de religion, de sexe, d'infirmité, de classe sociale ou de préférence sexuelle. On a donc un discours aseptisé et un culte de la personnalité concept. Dans le cas des événements allemands, pour ne pas risquer de critiquer son propre vivre ensemble, Merkel a tenté d'ignorer les quelques 750 plaintes d'agressions sexuelles survenues à Cologne le soir de la nouvelle année. Une façon de cacher la poussière sous le tapis, digne du géo des ménagères portugaises. Et je ne parle même pas de l'autocensure médiatique. Non, le plus gros problème du politiquement correct, c'est qu'il est impossible de s'en défaire. C'est un truc de gauche. Et alors, autant tirer à vue sur un skinhead, c'est facile, autant dégommer un hippie, bah ça se fait pas. C'est comme enculer sa cousine, ça se fait pas. Et pourtant, je préfère largement être confronté à la méthode force, personnellement. Je m'explique. Imaginez que votre père veut que vous alliez voir votre grand-mère qui bave. La manière forte serait, va voir ta grand-mère, que tu le veuilles ou non, sois poli et fais pas chier. Au moins, ça a le mérite d'être clair. On peut être d'accord, pas d'accord, faire une tentative de rébellion, peut-être. Sauf que... Pardon, désolé... Par contre, si le père est un père progressiste, post-moderne, le modèle best-seller de ces dernières décennies, on aura sûrement droit à... Tu sais que ta grand-mère aime beaucoup quand tu vas la voir. Après, tu fais comme tu veux, hein. Si tu veux pas y aller, c'est pas grave. Il faut que la décision vienne de toi. Et alors là, c'est encore pire. Un, tu dois aller voir la vieille, mais en plus, tu dois être content d'aller le supporter, le pruneau fripé. Et les conséquences sont désastreuses. Création de clichés positifs, novlangue destructrice de concepts de pensée, automuselage médiatique, et j'en passe. S'il vous plaît. Tous ensemble, créons un monde plus sale. Crachons sur l'art, pissons sur le féminisme de comptoir, enterrons l'antiracisme qui a perdu la tête et guillotinons le premier politicien disant ce que nous voulons entendre. Le premier qui commence une phrase par « Je suis de gauche, mais » finira au trou pour outrage à l'injure. Et merci, merci à Charlie Hebdo qui, pour la première fois depuis sa reprise presque malhonnête des années 90, fait enfin honneur à ses créateurs. Cavana et Choron vont peut-être enfin arrêter de se retourner dans leur tombe pour aller rejoindre Satan et Staline au hammam.
On remercie Octave, spécialiste du contre-pied. Ça devait être ton geste préféré au foot, toi, le Toulousain. En tout cas, merci beaucoup, Octave. On remercie également nos invités, forcément. On rappelle que l'exposition Entre deux Amériques que vous proposent Julien Chapuis et Barbara Rétoré se tient jusqu'au 30 janvier. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur leurs deux Facebook différents, Conserve Action et Nat Explorers. Vincent Serrano, vous pouvez le retrouver pendant le concert des Hurlements de Léo. Ça se passera à Cholet, au Jardin de Verre, samedi à 20h30. On remercie également Mélissa et Thibaut qui ont participé aux interviews, Marc qui était à la technique et à la réalisation ce soir, et Étienne qui était à la programmation comme tous les soirs. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. L'émission sera diffusée de 19h à 20h, mais enregistrée en amont puisqu'on sera en direct, quasi direct, de premier plan. En tout cas, si vous voulez passer nous voir, on aura une exposition là-bas assez sympathique puisqu'on sera au centre des congrès pour pouvoir enregistrer nos émissions. Voilà pour la pub, bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine.
Le sous-marin sur Radio Campus Angers. Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.